Bienvenue à cette première édition du Caribou déchaîné du 12 mai 2004 sur Fréquence Caribou. Ici Laurence Nadeau en direct de Montréal. Et bien, dans la prochaine heure, on va discuter, on va faire un débat. C'est une nouvelle série d'émissions et j'espère qu'on en aura plusieurs sur différents débats de société qui touchent les Québécois, les Canadiens et les nouveaux immigrants, évidemment. Ceux qui sont en processus d'immigration comme ceux qui viennent de s'installer et les Québécois, évidemment. Alors, on va commencer avec un sujet quand même assez chaud. Les points négatifs du Québec et comment ça va se passer? Eh bien, j'ai avec moi Gilles, alias Jimmy, et j'ai Jean-Philippe, alias Petit Prince. Alors, Gilles, dans le coin gauche, Gilles qui est un Québécois de souche depuis quelques décennies, qui connaît bien son Québec et qui connaît aussi de nombreux Français qui se sont installés depuis plusieurs années au Québec. Donc, il a un peu une idée de ce que les Français attendent, recherchent et trouvent quand ils arrivent au Québec. Il n'a pas vécu en France, à ma connaissance, mais en tout cas, il connaissait quand même assez bien les Français de distance. Ah, ta sœur vient en France. Bon, ben, c'est déjà ça. Et dans le coin droit, alors vous l'avez entendu, c'est Jean-Philippe alias Petit Prince qui est aujourd'hui notre capitaine Québec. Notre immigrant français, depuis maintenant presque 3 ans, qui finalement va aller à la défense du Québec. Parce que Jimmy nous a préparé une longue liste, une énumération des points noirs du Québec. Et il va nous expliquer pourquoi, pour lui, c'est un point noir. Et Jean-Philippe, dans le coin de droit, va donc répliquer, essayer de mettre les choses à l'heure, en tout cas selon son opinion personnelle. Alors, Jimmy, est-ce que dans un premier temps, ça a été difficile pour toi de trouver des points négatifs du Québec?
Ben voilà, je me suis assis, j'ai écrit une liste et je suis arrivé à 277 points. Non, c'est une blague, j'en ai 10 ou 12.
J'ai eu peur, là.
Et je peux te mettre dans l'eau chaude tout de suite, si tu veux, avec une qui est évidente.
Mais attends, j'ai une question à demander. Comment, Jean-Philippe, tu t'es préparé à cette rencontre avec Gilles aujourd'hui?
Préparé. Non, je me suis pas vraiment préparé. On voulait justement garder avec Jimmy un côté spontané. On va essayer de. De toute façon, il y a des points où je serais d'accord avec Jimmy, on va le voir. De toute façon, j'en sais rien, je sais pas trop. Je connais certains points, mais pas tous, loin de là. Donc on va voir, je vais essayer de défendre un peu le Québec là.
Alors évidemment, c'est pas arrangé, tu connais pas, tu as bien idée de quelques points qui va amener à avancer, ça tu le sais, mais tu sais pas, il y a certains points qui vont certainement te surprendre, peut-être que tu n'auras jamais entendu d'ailleurs, alors on va bien voir comment tu vas réagir. Alors Gilles, je te laisse l'honneur de commencer le bal.
Pour mettre Petit Prince dans l'eau chaude, les routes sont dans un état lamentable au Québec.
Ouais, là, objectivement, c'est vrai que moi, j'ai été surpris. Moi, je vais raconter une anecdote, d'ailleurs. La première fois que je suis arrivé au Québec, avant d'arriver au Québec, j'étais contre le système des péages en France, c'est ce qui consiste à faire payer l'usager des autoroutes. Et lorsque je suis arrivé au Québec et que j'ai vu l'état des routes, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pas si mal de faire payer les routes, enfin l'usage des autoroutes par les usagers, donc, oui. Et ce qui permet de mieux entretenir les routes. Mais enfin, bon, ça, c'est le côté anecdotique, mais il y avait un reportage très intéressant qui est passé, je crois, il y a un an et demi ou 2 ans sur Radio-Canada.
Ah oui, qui comparait les routes dans différents climats semblables.
Voilà, exactement. Alors les autoroutes québécoises étaient comparées avec les autoroutes dans les Alpes françaises et puis avec les autoroutes à Moscou. Et effectivement, il était révélé là-dedans que à la base, dans la conception même des autoroutes, des routes en général, même au Québec, il y avait comme des défauts. Là, on feel cheap à ce niveau-là parce que tu sais, c'est quasiment on met une grosse couche d'asphalte sur la terre. J'exagère un peu.
C'est un problème dans la fabrication du bitume. C'est quoi? C'est un laisser-aller, selon vous? C'est quoi?
Si j'ai bien compris,
explication de nos nids de poule.
Si j'ai bien compris, c'est à la base. Là, il n'y a pas une assez grosse couche de béton. Et ce qui donne une instabilité assez grande aux routes, surtout avec le climat, c'est aggravé avec le climat. Alors c'est vrai, on dit souvent que si les routes sont de mauvais état au Québec et à Montréal, c'est à cause du climat. Mais il y a quelque chose qui est assez simple à faire, c'est d'aller en direction Ottawa, et puis on se rend compte du changement là, lorsqu'on passe la frontière avec l'Outaouais, avec l'Ontario. On se rend compte tout de suite d'une différence. Et pourtant, le froid ne s'arrête pas. à l'Ontario.
Et les péages, en passant, toi tu t'en souviens, Jimmy, comme moi, on en a eu hein, dans la région de Montréal pendant de longues années. Voilà. C'était pour financer les autoroutes et ils les ont enlevés au fur et à mesure. Donc, ils ont tenu leurs promesses. Je pense qu'en France, il y a eu des péages qui étaient supposément temporaires et qui sont restés, en tout cas, malgré tout.
C'est rediscuté régulièrement de remettre les péages, mais... C'est pas arrivé.
Ouais, ça fait partie des marronniers journalistiques, là, c'est-à-dire des sujets qui reviennent régulièrement et qui font vendre.
Numéro 2.
Dans toutes les provinces canadiennes, c'est au Québec qu'il y a le plus de fumeurs. Donc, ça a comme conséquence qu'il y a plus de frais médicaux reliés au cancer du poumon. Et ce qui nous amène à parler au fantastique système de santé.
Mais là, une chose à la fois. Est-ce que là, on parle tout de suite du système de santé ou est-ce qu'on parle juste des fumeurs?
Les deux.
Parce que moi, j'aimerais dire qu'on a beaucoup d'immigrants européens à Montréal et je veux pas dire que c'est eux qui nous amènent la boucane, comme on dit au Québec, la fumée, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Français qui débarquent qui sont fumeurs, qui ont qui ont décidé de ne plus être fumeurs, mais bon, il s'agit d'aller dans un restaurant français à Montréal pour se rendre compte que tiens, peut-être que les Européens ont plus tendance à fumer qu'en Amérique du Nord. Est-ce que c'est parce qu'on a une population plus immigrante venant d'Europe que dans d'autres capitales au Canada qu'on a plus de fumeurs? Et c'est une question que je me pose.
Non, je crois pas.
Ou est-ce que c'est parce que le Québécois est d'une façon intrinsèque plus fumeur que le Canadien anglais par son côté latin ou je
sais
pas trop?
Voilà, et fumer c'est relié au plaisir de vivre, avoir du fun, tout ça. Donc, c'est au Québec qu'il y a le plus de ça. C'est remarquable que il y a certaines villes canadiennes anglaises où on peut même pas fumer sur une terrasse dehors. Ouais. C'est ridicule.
Ouais, d'ailleurs, il y a une chose assez surprenante qui se passe à Ottawa, c'est que lorsqu'il y a eu cette interdiction de fumer dont tu fais référence, d'ailleurs, dehors, je sais pas, mais en tout cas dans les bars, c'est interdit. Ça c'est clair.
À Toronto, c'est ça.
À Toronto, aussi, sans doute. Ouais. Mais ce qui se passe à Ottawa, c'est que depuis qu'il y a eu cette interdiction, il y a beaucoup de d'Ontariens fumeurs qui passent la rivière des Outaouais pour aller faire la fête à Gatineau ou à Hull, etc. Donc, dans le fond, ça amène de la clientèle en plus pour ces villes-là.
Mais ce qui est quand même drôle, c'est que là, bientôt, on délaisse de plus en plus la fumée. Bon, on se dit, voilà, on va être moins malade. Mais là, les gens deviennent de plus en plus obèses en Amérique du Nord et partout dans le monde aussi. Alors ça va alourdir, pour pas faire de mauvais jeu de mots, notre système de santé, ça aussi. Mais, bizarrement, oui, on a moins de fumeurs. Mais par contre, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus de fumeurs de marijuana, par contre. Parce que là, on s'en va de plus en plus vers une décriminalisation de ça. Et même en Colombie-Britannique, je lisais cette semaine dans la presse que carrément, ils pensaient même décriminaliser ça et même taxer les gens qui vont acheter leur marijuana. Alors...
En passant, la mairie au Québec s'appelle Québec Gold.
Québec Gold, ah, ben, je ne savais pas. On appelle ça du pot aussi, en tout cas. Alors donc, Jimmy, reviens à ce que tu voulais nous parler.
Ben, on peut parler du service de santé un peu, qui est pas mal décrié.
Oui. Ouais.
Toi, c'est quoi là que tu reproches à notre système de santé, précisément?
Bon, je lisais dans l'article de la presse qu'il y a deux ou trois fois plus de médecins per capita en France. Ça ferait une méchante différence au Québec, ça. Et je me rappelle que ce qui est arrivé, c'est quelqu'un, quelque part, un fonctionnaire au gouvernement du Québec, a décidé il y a plusieurs années. Bon, il dit, pour contrôler les coûts dans le service de santé, il faut regarder où est-ce qu'il y a une dépense. Où est-ce qu'il y a une dépense, c'est qu'il y a des médecins. Donc, si on fait un contingentement des médecins dans les écoles de médecine, il y aura moins de médecins, donc moins de coûts. Quelle stupidité!
Et maintenant, on aimerait bien que des immigrants qui arrivent de partout à travers le monde deviennent médecins, mais ils sont bloqués par les ordres.
Autre point.
Ils sont pas reconnus par les ordres. Oui, les ordres, on va en parler, mais ils ont donc des difficultés, alors ils se retrouvent, infirmiers, aides-soignants ou chauffeurs de taxi, voilà. Ne pouvant être médecins. C'est quand même incroyable. Puis on a de la difficulté, surtout, le film La Grande Séduction, là, en parle en long et en large.
Oui,
hein?
C'est vrai.
Hein, je veux dire, c'est que c'est ça, finalement. C'est les médecins, on en trouve difficilement à Montréal. Et alors là, en région, c'est encore une autre histoire.
Puis le gros problème, c'est que les meilleurs médecins québécois, parce qu'ils ne gagnent pas suffisamment d'argent, sont attirés de plus en plus par les États-Unis, oui. Ils sont engagés par des hôpitaux aux États et ils y vont, ils n'hésitent pas à y aller parce qu'ils savent qu'ils vont doubler, tripler, quadrupler leur salaire.
Voilà.
Et ça aussi, c'est un problème. Moi, j'ai entendu dire quelqu'un qui a à peu près il y a un peu plus d'un an qui disait être prêt pour d'état d'affaires. qui disait être prêt surtout pour modifier le
Jean par hasard.
Je sais pas, j'ai oublié son nom. Il était prêt pour changer et modifier le système de santé.
Ça là, fait... tu nous fais bon, je l'expliquais clairement, mais tu parles de l'ancien
de Jean Charest, qui était élu candidat en avril, et qui est maintenant premier ministre du Québec. Et qui faisait de sa politique de la santé une priorité. Et bon, ben c'est normal, ça se fait pas tout de suite. Là, c'est, les résultats surtout pour une politique aussi grande, aussi gigantesque. Enfin, le chantier de la santé qui est gigantesque. On s'attendait pas non plus à avoir des résultats du jour au lendemain. Mais là, ça fait quand même un an et on attend encore les résultats.
Parce que faut le dire. Alors, les problèmes principaux dans la santé, je sais pas si tu l'as répertorié dans ta petite liste, mais moi, je vais le rappeler. C'est les listes d'attente dans certaines chirurgies. Pas toutes les chirurgies, évidemment, mais il y a de longues listes d'attente. Parfois aussi l'attente dans les urgences, parce que c'est pas nécessairement 7 heures ou 5 heures d'attente, mais c'est possible dans certaines urgences qui sont, bon, on utilise beaucoup le mot, là, engorgées. Si on va à Saint-Luc ou à Notre-Dame, parfois ça peut être très effrayant un samedi soir. Alors évidemment, ce n'est pas toutes les urgences à Montréal, par exemple, qui sont constamment assiégées comme ça. Moi, j'ai déjà été guérie, suivie en 2 heures, 1 heure, mais il y a des attentes très très longues.
Mais la qualité des soins n'est pas mise en cause. J'entends parfois des mauvaises langues commencer à dire qu'au Québec, on est mal soigné. C'est pas vrai. Il y a eu une enquête justement qui a été faite récemment, on en a parlé il y a une ou deux semaines, qui montrait bien que au niveau de la qualité, on était à peine en dessous de la France, qui est considérée comme, comme chacun sait, comme une des références en matière de santé. Oui. Je ne sais pas si c'est réaliste ou pas, mais enfin, qu'importe. On se rend compte donc qu'on est bien soigné au Québec. Il y a effectivement les problèmes d'attente, d'attente aux urgences. Bon, ça, c'est encore une fois. Là, il y a des gens qui sont prêts, il faut les attendre maintenant.
Ah, donc, pour compliquer le tout, comme on disait tout à l'heure, il y a les médecins québécois qui s'en vont aux États-Unis parce que les salaires sont plus élevés et les impôts sont moins élevés, ce qui est un autre point.
Oui, alors effectivement, ça c'est vrai que les impôts sont les impôts au Québec sont les plus élevés en Amérique du Nord.
Oui. Hein,
là je le dis pour ceux qui ne le savent pas encore.
De tous les États, les provinces, c'est au Québec que c'est le plus élevé.
Mais attention, il faut savoir déjà que le Québec a une politique sociale la plus en avant, la plus progressiste en Amérique du Nord, et que ça a un coût. Alors il y a plusieurs manières de gérer ce coût. Il y a soit on laisse partir le déficit public, on se dit c'est pas grave, on va hypothéquer notre avenir dans le fond. On va laisser courir le déficit public, comme ce qui se passe un peu en France. Et puis comme ça, on va avoir des superbes mesures sociales, ça va être bien, on va pouvoir payer le bien-être social, on va pouvoir payer la santé. Et puis c'est pas grave, on verra ça après le reste. Et les impôts, on peut les diminuer ou les maintenir à un niveau assez moyen par rapport à l'Amérique du Nord.
Mais oui, pour un immigrant français, est-ce qu'il va payer, selon toi, pour le même salaire, autant d'impôts, parce que finalement, on s'adresse à des gens qui vont venir s'installer ou qui sont récemment installés ici? Est-ce qu'il faut s'attendre au même taux d'impôts, selon vous?
Je peux donner un chiffre. À 86 000 $ ici, c'est 50% d'impôts.
Et en France, ça fait combien, évidemment?
Oh là, j'ai pas les chiffres en tête, mais...
C'est à peu près 50 000 euros, ça.
C'est à peu près comparable, hein, d'après ce que j'ai compris. On paye peut-être un peu moins au Québec, mais c'est tellement peu la différence que on va dire que c'est assez comparable. Mais c'est ça, il faut savoir aussi, ce que je voulais, pour continuer mon explication, c'est que la maîtrise du budget au Québec, c'est une réalité. Le Parti québécois qui était au pouvoir il y a encore un peu plus d'un an avait maintenu un déficit public à zéro. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays qui ont surtout une politique sociale aussi forte qu'au
Donc,
Québec.
Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a plus de services au Québec que dans d'autres provinces.
En Amérique
États,
du Nord,
en
oui.
tout cas, par exemple, les frais de scolarité pour l'université sont les moins chers au Canada, oui. Bon, des choses comme ça. Et que donc, il y a quand même une politique zéro, donc une nécessité, vraiment, les politiques font des efforts.
Soit on se dit, on va bien gérer et que, déficit zéro, soit on se dit, on s'en fout. Mais enfin, si on maintient le déficit zéro, il faut que les impôts soient là, il faut que l'argent rentre quand même quelque part, parce que ça coûte cher. soit on se dit bon ben on va baisser les impôts, mais d'un autre côté il faut bien récupérer l'argent qu'on sort quelque part, donc on va emprunter plus.
De toutes les provinces canadiennes, c'est au Québec qu'il y a le plus de divorces et donc le plus de familles reconstituées. Alors statistiquement au Québec, les parents ont 1,4 enfants puis les enfants ont 3,5 parents.
Ouais ben puis non mais puis il y a plus de divorces au Québec et alors?
Non, il y a moins de mariages aussi, mais...
Je vois pas trop le problème, là.
Plus en vie commune.
Non, c'est vrai, objectivement.
Ça te dérange pas, toi, Jean-Philippe? Ben ça te fait plus de femmes divorcées pour toi?
Oui. Mais sérieusement, ça montre surtout une société québécoise qui est, je trouve, bien, comment dire, mature. Parce que dans le fond, on se dit, si ça marche pas, on divorce. Plutôt que de rester ensemble et puis de faire souffrir les enfants quelque part parce que des parents qui s'entendent pas.
Faire semblant pour la galerie.
Ça, exactement.
Mais, mais quels enfants ça va faire, ça, qui ont 3,5 parents au lieu de 2?
Oh, écoute, moi j'ai eu l'occasion de voir ça là, personnellement, de constater ça personnellement ici. Je trouve pas que c'est... c'est sûr, il y a des problèmes, il y a des soucis, surtout s'il y a des parents... Bah, généralement, c'est le père là, qui abandonne un peu ses enfants, et c'est vrai que ça cause des problèmes. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être divorcé pour être confronté à cette situation.
Tu vas en faire réagir plus d'un, là, généralement. Oh, c'est pas grave. Le père.
Bah oui, généralement, c'est le père. C'est, excusez-moi, mais on voit rarement des mères qui abandonnent leurs enfants. Oui, évidemment, ça arrive, c'est des catastrophes dans ces cas-là, mais c'est très rare.
Donc, est-ce que tu sous-entends par ça que les gens seraient plus malheureux en amour au Québec, donc, parce qu'ils divorcent plus?
Peut-être plus passionné.
Ah, c'est peut-être ça finalement.
Ouais, et puis il faut pas, je veux dire que ça marche pas. Le problème en France et dans ces vieilles sociétés où il y a beaucoup de
conventions.
Ouais, c'est ça. Et on fait beaucoup attention à l'apparence. On se dit non, on va pas divorcer. Qu'est-ce que vont penser les voisins et puis ta famille? Et voilà, on tombe dans des situations assez paradoxales,
c'est vrai,
assez paradoxal, assez terrible.
J'ai déjà des immigrants qui m'ont en effet dit qu'une fois ici, ils se sont séparés. Donc ça n'allait pas super bien, que l'immigration était un choc, parce qu'il faut le dire aux immigrants, l'immigration c'est un gros choc hein, pour un couple, parce que c'est oui. Pas tous les couples qui s'adaptent au même rythme, c'est pas tous les couples qui se révèlent être la même personne de l'autre côté de l'océan, alors on se découvre, il y en a qui peuvent beaucoup se découvrir, et puis des fois ben les gens ils vont dans des chemins complètement différents, et il y en a carrément qui m'ont dit on avait moins de pression sociale, moins de pression familiale, et puis on s'est séparés. Parce qu'on avait moins de comptes à rendre.
Il y en a qui se rapprochent aussi.
Oui, j'imagine.
Et puis c'est quand même ce que tu disais, Laurence, là, c'est excellent. Parce que c'est tout à
c'est comme
ça.
Un enfant, ça rapproche ou ça éloigne?
C'est plus simple ici, les rapports sont plus simples, que ce soit les rapports professionnels, les rapports humains, donc. Et on se dit, bon, écoute, on va pas se faire la guerre, on va pas se formaliser, ça marche pas, au revoir, et puis on passe à autre chose. C'est pas pour ça qu'on va être en chicane, ad vitam aeternam.
Jimmy, je te laisse continuer ta liste.
C'est majoritairement le Québec qui n'était pas d'accord pour que l'armée canadienne participe à la guerre en Irak. Et donc, nos soldats canadiens ne sont pas en train de torturer des Irakiens.
C'est négatif, ça?
Avec nos grands copains et soldats états-unis. Ah non, excusez, c'est positif, ça. Pardon, oui,
ah,
t'as raison.
Ah, Jimmy, okay, tu en as passé une petite vite, là. C'était une petite vite de Jimmy.
Bon, OK, celle-là, tu vas l'aimer. Le français parlé par les Québécois est souvent un charabia incompréhensible.
Ah, ça me fait
on
plaisir.
Veut faire partie de la francophonie, mais il n'y a pas un francophone hors Québec qui comprend ce qu'on dit.
Merci Gilles, merci. C'est un sujet qui me tient vraiment énormément à cœur. Alors, c'est vrai que pour un français, surtout adorateur de cette académie de vieillards, pour pas dire croulant, mais coulant presque.
Sénile, tu veux dire.
Sénile, oui, de se dire... moi, je rencontre parfois des Français qui se disent « outré ». C'est le mot qu'ils emploient, outrés par l'orthographe, par le français parlé ici. Et puis, moi, j'aime bien leur rappeler...
Tu veux dire que Molière se retournerait dans sa tombe plusieurs
ça,
fois
Molière, moi, je crois que ça le ferait surtout rire. Quand on connaît bien Molière, c'était pas quelqu'un qui était vraiment... qui avait l'orthodoxie de la langue ancrée en lui. Non, il faut pas oublier qu'on a été séparés pendant plus de 300 ans. Il n'y a quasiment pas eu de contact entre la Nouvelle-France, qui est devenue le Québec... Et la mère patrie, comme on aime à dire, la France, il y a eu une séparation nette pendant 300 ans. Et qu'en 300 ans, à une distance de 6000 km, il est bien évident qu'on évolue. Alors on va évoluer différemment, on va évoluer avec ses petits défauts, ses petites qualités, et puis on va adapter cette langue, parce que c'est sûr que le français parlé au Québec, aujourd'hui, c'est pas le français qui était parlé il y a 300 ans. Il a évolué juste différemment. Il n'a pas attendu que les immigrants français s'en reviennent au Québec.
300 ans plus tard.
300 ans plus tard, il dit bon, on n'a rien touché, là, vous pouvez reprendre votre langue, et puis c'est bon, c'est correct. Non, ça évolue.
Mais c'était pas la même langue il y a 300 ans non plus en France.
Tout à fait, oui.
Parce que les Exactement. Québécois, si on peut le dire, la Nouvelle-France a été fondée avant la Révolution française. Donc, ce qu'on aime dire, en tout cas au Québec, c'est qu'à l'époque, Louis XIV disait « le roué, c'est moué ».
Oui.
Et c'est ce qu'on dit au Québec.
Et ce qu'on dit aussi dans certaines régions de France, encore aujourd'hui. Hein, j'aimerais
toi,
quand même.
Toi, tu viens de Normandie.
Je viens de Normandie, et dans le pays de Caux, je peux vous dire que on a des intonations. Il y a des intonations qui ressemblent pas mal à l'accent québécois d'aujourd'hui, d'ici. Là.
Donc, est-ce que tu irais jusqu'à dire que finalement les Québécois parlent le français le plus authentique possible d'il y a 300 ans, en tout cas?
Ils parlent un français. Et moi, je pense qu'il faut plus parler de langue québécoise que de langue française du Québec. Et je crois qu'à partir du moment où les immigrants auront bien ça en tête, de se dire c'est la langue québécoise, c'est une version du français dans le fond qui a évolué différemment, plutôt que du français du Québec, et bien déjà on aura avancé beaucoup et puis on pourra mieux accepter les différences, pas les fautes, non, les différences.
Alors, pour ceux qui arrivent au Québec et qui n'ont pas eu trop de contact à part via la chanson québécoise ou en regardant Isabelle Boulay sur TF1 à Paris, ben, il faut s'attendre à un autre style de parler ici au Québec, d'être un peu perdu les premiers jours, de pas toujours comprendre, hein. Et c'est pas méchant, c'est tout à fait normal. On s'adapte au rythme. Les gens parlent rapidement, ils ont leurs expressions locales, ils ont des références qu'on connaît pas quand on arrive.
Et surtout, il faut pas oublier que, comme dans tous les pays, il y a un langage de la rue et il y a un langage qu'on entend à la télévision, qui est un langage plus... on fait un peu plus d'efforts pour parler. C'est sûr que si vous écoutez Radio-Canada, les gens vont... même pour un Français qui arrive là tout juste au Québec, il va tout à fait comprendre le journal télévisé de Radio-Canada. Par contre, il y a certains individus que vous allez rencontrer dans la rue, vous allez leur demander de répéter parce que vous n'allez pas comprendre tout de suite. C'est normal. Mais imaginez un Québécois qui va en France, qui va en Picardie et qui va demander son chemin.
Dans une banlieue parisienne,
aussi, oui, tout à
ça
fait.
Peut être un choc. Tout Moi, personnellement, je ne comprends pas toujours.
Donc, il faut relativiser hein, et puis arrêter de s'attaquer à la langue québécoise, s'il vous plaît. Merci.
Bon, alors, on va faire une petite pause musicale. On va aller vers une chanson du groupe Corbeau. Alors, pour vous présenter Corbeau, c'est un groupe qui est né dans les années 70 au Québec, dans l'époque bien rock. Et ils font de la guitare, du rock bien lourd, et leur chanteuse Marjo a par la suite fait une carrière solo dans les années 80. Et vous pouvez entendre plusieurs de ses chansons sur Fréquence Caribou d'ailleurs. Alors on y va avec une chanson de Marjo avec son joual bien criant, Illégal. Je suis pas bonne. 3h20 à Montréal et on continue avec notre débat sur Caribou déchaîné avec les points négatifs du Québec. Alors, je vous rappelle un peu notre petit jeu. C'est Gilles qui a sa liste.
Oh, le vilain.
Et qui arrive avec toutes ses critiques du Québec et Jean-Philippe alias Petit Prince essaie de sauver le bateau. Alors, on va continuer, Gilles. Quel est le prochain point noir du Québec?
C'est quoi ces cons de l'ordre des ingénieurs et des ordres professionnels? Il est tout à fait normal qu'un pays s'assure que ses immigrants qui vont pratiquer des professions telles qu'ingénieur, médecin, dentiste, soient à niveau dans leur nouveau pays. Mais il semble que là, les associations professionnelles leur compliquent la vie joliment.
Oui, ah oui. Effectivement, il y a des graves problèmes, surtout au niveau des, comme tu l'as dit, pour les ingénieurs et pour ceux qui sortent des écoles d'ingénieurs, pour ceux qui ont le statut d'ingénieur en France ou ailleurs, en Europe, en Afrique, en Asie, etc. Il y a effectivement un problème, c'est que l'ordre des ingénieurs du Québec est pas mal,
sclérosé, arrêté sur ses,
ça, et que c'est pas mal difficile. On peut pas arriver au Québec avec le statut d'ingénieur et s'approprier le statut d'ingénieur. Il faut répondre à certains critères. Il faut être, je crois, approuvé par l'ordre des ingénieurs, accrédité ou qu'importe le terme, mais vous avez compris. Donc ça manque de souplesse. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit aussi dans ta question, Jimmy, c'est normal aussi qu'un pays s'assure effectivement que l'ingénieur, le médecin, qu'importe la profession, qui arrive comme ça au Québec, soit en mesure de...
Soit à niveau.
Soit à niveau, oui.
Oui, bien sûr.
C'est délicat, parce que si je cite un pays particulier, il y en a qui vont se sentir visés.
Tu vas recevoir 2-3 emails.
Oui, mais imaginez un médecin qui a eu une formation dans un pays qui a pas forcément la technologie des pays occidentaux, par exemple, ou qui ne connaît pas tous les médicaments sont différents, les traitements sont différents,
sont toujours différents, les médicaments.
C'est toujours différent, mais les méthodes de travail, etc., sont différentes. Imaginez que ce médecin arrive au Québec, qu'on lui dise, bon, t'as l'air bien correct, t'as le diplôme, là, ok, c'est beau, là, oui. T'as une table d'opération dans le fond, là, et puis c'est bon.
Vas-y. Oh non,
ça serait quand même assez paniquant.
Évidemment. Bon. Mais il semble y avoir un certain protectionnisme.
Parce qu'il faut le rappeler, les ordres, là, on a plus de 40 ordres au Québec, et c'est depuis les années 70 qu'elles sont installées, que ça s'est installé, pardon. Et dans tous les deux, dans différents domaines. Donc, évidemment, il y a des professions où il faut absolument avoir le titre pour pouvoir exercer cette profession comme médecin. Bon, on peut s'entendre. Mais si on est comptable, par exemple, on peut très bien être aide-comptable, avoir le poste d'un comptable,
ouais,
et même le salaire d'un comptable.
2 plus 2, ça fait 4. Hein,
sans nécessairement avoir la reconnaissance du titre.
Non, mais pour être comptable, oui, c'est quand même assez ridicule. Je parlais des médecins parce que c'est un cas particulier, mais pour des professions comme la comptabilité, je trouve ça un peu idiot qu'il y ait autant de barrières, parce que comme la comptabilité d'un pays ou un autre, il y a moins à quelques petites différences près, elle reste la même.
Je fais un appel à nos auditeurs. Si vous avez des points négatifs que vous aimeriez qu'on discute ici dans cette table ronde, écrivez-nous directement à l'instant même. On va prendre vos emails. On va essayer d'y répondre du mieux de notre possible. Mon Dieu. À PN, comme point noir, @immigré.com. Évidemment, après la rediffusion, ce email ne fonctionnera plus puisque on va le clore à la fin de l'émission. Mais en tout cas, si dans les prochaines minutes, ça vous démange de nous poser une question, de nous lever un sujet en particulier, de soulever un sujet, écrivez-nous à pn@immigré.com.
Ah ouais, allez-y, hein, moi je vous attends.
Alors donc, pour les ordres, il n'y a pas beaucoup de justificatifs parfois, ou tu trouves que c'est normal?
Ça dépend des professions, je pense. Comme je te disais, comptable, des professions qui sont quand même assez semblables d'un pays ou à un autre, oui, je trouve ça ridicule. Pour d'autres professions beaucoup plus pointues, beaucoup plus où le facteur technologique est quand même plus important. Oui, je trouve ça normal, mais ça prendrait quand même plus de souplesse, je suis d'accord.
Et toi, Jimmy, as-tu l'impression qu'il va y avoir une évolution parce que là, les ordres se font un peu brasser la cage?
Exact.
Est-ce qu'ils vont ouvrir les portes un peu plus?
Obligé.
Il me semble qu'on n'a pas le choix avec la pénurie qu'on a dans plein de domaines. Ça devient un peu aberrant. As-tu d'autres choses sur ta liste? J'imagine que t'en as encore beaucoup.
Pourquoi diable les Québécois ont-ils ce maudit complexe d'infériorité vis-à-vis des Français?
Ouais, moi je comprends pas, parce que franchement, il y a rien là. Il y a vraiment pas à avoir de complexe. Oui, c'est vrai, je l'ai vu.
Tu l'as constaté.
Je vais quand même être objectif. Oui, je l'ai constaté. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que, en fait, là, ce que je vais dire, c'est des hypothèses. Je ne suis pas sociologue. Je me dis que, les Français, c'est des grandes gueules, c'est des gens qui
en jettent
beaucoup, qui ont beaucoup, qui se prennent un peu pour le nombril du monde. Et puis, chez nous, tout est beau, tout est meilleur, tout est tellement plus merveilleux. La culture française a rayonné sur le monde pendant quelques siècles. J'ai bien pris soin de mettre ça au passé. Et maintenant, ce complexe de supériorité, parce que je parle des Français, là, reste et perdure malgré le fait que y a plus trop de raisons de se péter les bretelles, comme on dirait au Québec. Et puis, peut-être que le fait, justement, de ce complexe de supériorité qui est assez fort, assez rude de la part des Français, peut-être que le Québécois se sent, comme il aime pas la chicane, le Québécois, il se sent un peu comme, ok, là, on va lui dire qu'il est le plus fort, et puis on va la fermer, et puis on va...
Mais c'est une impression aussi, parce que au Québec, ça revient souvent, cette théorie-là, on est des colonisés, comme disent certains. On a été colonisés. On est une colonie française, évidemment, mais on a été colonisés par des Anglais. Donc, on a perdu nos pouvoirs, les règnes du pouvoir. Donc, il y a déjà un état de minorité, un peu colonisé. Alors, est-ce que, face à un Français plein de sa confiance et tout ça, là, on n'est pas déjà mal parti? Parce que, est-ce que les Belges se sentent comme ça face aux Français, les Suisses, les Africains, je sais pas, moi.
Je sais pas trop, non, je pense pas. Les Belges, ils ont l'habitude, vous savez, les Belges...
C'est pour ça qu'ils ont développé le sens de l'humour, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Les Belges, ils regardent le journal de TF1, vous savez, ils connaissent bien les Français, les Belges, là, donc... Ils ont l'habitude, ils savent comment les prendre. Les Québécois, c'est peut-être encore nouveau, parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de Français ici. Mais ce que tu viens de dire, Laurent, c'est intéressant, parce que il y a peut-être effectivement une cause qui est historique aussi. Les Anglais, après les défaites des plaines d'Abraham, les Anglais ont pris le pouvoir économique. Comment? C'est difficile à chaque fois que je cite ce nom-là.
Non, parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas c'est quoi les plaines d'Abraham. C'est un champ de bataille à côté de la ville, dans la ville de Québec, et c'est là que Montcalm s'est fait battre par Wolfe, et que donc le Québec est parti à la couronne britannique. Voilà.
Donc c'est ça, les Anglais, ils étaient chez eux, ils avaient gagné la guerre. Hein, c'est normal. Ils arrivent, ils envahissent la Nouvelle-France, et puis c'est eux qui prennent le pouvoir économique, le pouvoir politique, et ça a duré très longtemps. On peut dire que ça a duré même jusqu'à la Révolution tranquille dans les années 60. Et puis, qui dit le pouvoir politique, le pouvoir économique? Donc tous les gens qui sont instruits, qui peuvent aller jusque dans les sphères universitaires, si je puis dire, étaient surtout des anglophones, parce que à quoi ça servait pour un francophone de persévérer dans l'éducation, puisque de toute manière c'était barré pour lui, il pouvait pas avoir devenir dirigeant d'une entreprise, il pouvait pas. Donc il y a eu, je pense qu'il y a eu ce facteur historique qui a joué. En ce moment, c'est différent parce que la tendance se renverse, hein, je pense, j'espère en tout cas. Mais peut-être qu'il y a une... Je sais pas ce que t'en penses, Jimmy, vas-y, je te vois sourire.
Mais disons qu'en tout cas, si je peux faire une petite parenthèse, c'est évident que quand la colonie française est passée aux mains britanniques, l'élite française à l'époque... ceux qui avaient l'argent de retourner en France, pourquoi ils seraient de rester sous la domination de leurs pires ennemis légendaires ou presque, les Anglais? Alors c'est évident qu'il y a beaucoup de bourgeois et l'élite en grande partie des commerçants et tout ça qui retournaient tout simplement en France parce que ils sentaient qu'ils perdaient tout simplement les règnes. Alors qui est resté, qui est devenu l'élite du Québec? C'est le clergé, et c'est en partie pour ça que le Québec est resté pendant des décennies, sous trois, il y avait trois, le dogme de la patrie, de la religion et de la langue, et c'est comme ça qu'on parle encore le français 300 ans plus tard.
Jimmy, non?
Qu'est-ce que t'en penses, Jimmy?
Moi, je pense plus.
Est-ce que tu penses
voilà,
que...
Voilà, t'es pas déjà KO, là?
Non, mais j'en ai d'autres, là, j'ai hâte de
voir. Ok, vas-y.
Les Québécois ne sont pas toujours si polis qu'on le dit. Il n'est pas rare, par exemple, de voir quelqu'un qui ne va pas tenir la porte pour la personne qui suit, des voisins qui ne se disent pas bonjour lorsqu'ils se croisent dans la rue, lorsqu'on rentre dans un magasin quelconque, surtout des jeunes ne vont pas dire bonjour.
Ok, ouais, t'as dû chercher longtemps pour trouver ça.
J'essaie de déstabiliser l'adversaire, là. Je sens.
Non, honnêtement, oui, c'est vrai qu'on peut voir effectivement des relâchements parfois dans ce qu'on va appeler la civilité. Mais j'ai eu d'ailleurs l'occasion, si je me souviens bien, d'en parler sur le forum. Je préfère que la personne devant moi ne tienne pas la porte dans le métro, plutôt que de me la tenir et être hypocrite. Et ici, au Québec, on va peut-être pas tenir la porte pour le suivant, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui est mal en point, qui a besoin d'aide dans la rue, les Québécois vont l'aider, vont aller le voir. Il y a personne là ici qui va mourir de faim sur le trottoir, je le crois pas. Bien sûr que ça arrive, mais c'est des gens qui sont complètement isolés. S'il y a vraiment quelqu'un en détresse, n'importe qui va l'aider. Moi, j'ai été surpris. Je suis encore surpris, même après quelques années ici, de voir qu'il y a des jeunes là qu'on donnerait même pas, $2 à garder, parce qu'on se dit, oh là, celui-là, il a l'air
louche.
Des jeunes qui, avec les cheveux explosés, bleus, etc., qui vont aider des vieilles personnes à traverser la rue,
oui. T'es vraiment ému.
Oui, c'est ça. Ou des jeunes qui vont payer leur passage au métro, alors que on sait très bien.
C'est vrai que les gens attendent tranquillement en ligne, comme des petits gentils, poliment, ils attendent de voir l'autobus. Alors j'ai quelques commentaires là qu'on vient de recevoir à 14h49 de Choumarette, directement de Chicoutimi. Bonjour Choumarette, bonjour Marie-Claude. Alors bravo Pépé, elle t'encourage, Petit Prince, tu défends très bien le Québec et continue. Mais elle dit quand même, bravo Jimmy, tu n'attaques pas trop quand même. Bon, avec un gros sourire, amitié à toute la gang.
Ce n'est que le début.
Merci en tout cas, Marie-Claude.
Et il y a, de Mons en Belgique, Alex qui nous a écrit.
Mons, c'est Mons.
Mons, pardon, je m'excuse à tous les Belges. Là, je m'excuse vraiment, c'est bon. Les limites de ma connaissance de la Belgique, pourtant je connais quand même un peu la Belgique. Alors bonjour à tous, vous pouvez aborder également les transports en commun. On dit souvent que les réseaux sont peu développés, qu'ils sont vétustes ou les mêmes, même trop chers. Qu'en pensez-vous, Alex, donc directement de Belgique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ok, alors le transport en commun, c'est sûr que c'est pas autant développé. Quoique, je pense pas qu'à Mons, ça soit vraiment très très développé le transport en commun, soit dit en passant. Mais bon, c'est vrai que par rapport Montréal, par rapport à une ville comme Paris,
l'île de Montréal est de la même superficie que Paris intramuros, si j'ai pu comprendre.
Plus grande, là, je pense que.
Et donc,
Montréal est plus grand.
Tu vois que le réseau de notre métro. Il y a quatre lignes de métro. Notre métro n'est pas centenaire. Il date de 1967, si je me souviens bien, l'année de l'exposition universelle. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment sur toute la grandeur du territoire.
Alors, bon, ok, mais il y a quand même des autobus. Et le réseau d'autobus est vraiment très, très bien développé, en tout cas à mon sens. Moi, je n'ai pas de voiture. Je me déplace uniquement en transport en commun. Je n'ai pas eu de difficultés à date pour mes déplacements sur l'île de Montréal. Mais il faut savoir, alors il y a quand même du vrai.
Mais t'habites pas loin d'une bouche de métro, c'est juste.
J'habite pas loin d'une bouche de métro, mais oui, c'est vrai. Mais lorsque j'ai cherché un emploi, j'ai eu à me déplacer souvent en autobus. Et puis j'ai jamais eu de difficultés. C'est assez simple. Il faut comprendre le système, mais une fois qu'on l'a compris, c'est assez simple. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque. 4 lignes de métro pour une superficie aussi grande que l'île de Montréal, c'est vrai que c'est peu. Faut pas oublier quand même qu'on est en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est le royaume de la voiture. Et que si on veut se déplacer vraiment efficacement, ça prend un char.
Qu'est-ce que t'en penses, Jimmy?
Ben, tu veux dire une voiture.
Oui. Maintenant, c'est toi qui me corrige, j'ai bien compris. D'accord. Tous les Cubains sont permis, ma parole.
Mais moi, je rajouterais évidemment qu'un immigrant qui s'installe à Montréal et qui veut pas nécessairement dépendre de la voiture doit évidemment s'installer non loin d'une bouche de métro, parce que la réalité, c'est qu'au mois de janvier ou février, à moins 40, t'as pas envie d'attendre pendant 2 heures ton autobus au coin de la rue. Mais ce qui est bien dans le réseau de transport de Montréal, même s'il n'arrive pas à desservir tout le territoire, c'est que quand même, il y a des petits panneaux qui vous permettent, en téléphonant simplement, de savoir exactement à quelle heure va passer votre prochain autobus, et ils sont quand même assez fiables, ce qui vous permet de pas geler à moins 40. Je pense que Jimmy, tu veux nous parler d'un autre petit point avant qu'on aille à encore une autre pause.
J'ai un autre point qui est assez élaboré. J'aimerais avoir la réaction d'un immigrant qui est ici depuis un bout de temps, qui connaît bien le Québec, comme Jean-Philippe. Les Québécois ont une bizarre de relation avec l'argent. Le Québec a été longtemps une société très catholique, sclérosée même. Et dans la religion catholique, comme on sait, l'argent est sale. Les Québécois qui avaient de l'éducation, de l'instruction, comme on disait à l'époque, ont donc souvent préféré des professions libérales, comme notaire, avocat, dentiste, médecin de famille, plutôt que de devenir des hommes d'affaires qui créent des entreprises. Puis, quelque part dans les années 60, les Québécois ont balancé par-dessus bord tout ce qui était religion. Ils ont découvert le culte du néolibéralisme et se sont mis à créer des industries, des entreprises petites et grosses, et faire de la business un peu partout dans le monde. Comme c'est nouveau pour nous tout ça, il y a ce qu'on appelle en anglais des « growing pains », c'est-à-dire des difficultés de croissance. L'économie au Québec a énormément progressé au cours des dernières années. Il y a beaucoup de nouveaux riches. Prenons par exemple dans le domaine artistique. Ce qui était de l'artisanat, comme au temps de Félix Leclerc, au début de Charlebois, est devenu maintenant une très grosse business. Et comme c'est nouveau d'avoir de l'argent, il y a des dérapages. On a des propriétaires de réseaux de télévision qui congédient de leur réseau de télévision des humoristes parce qu'ils font trop de blagues sur son amour de l'argent et sur sa blonde. On a des directeurs de présidents fondateurs de Cirque du Soleil qui refusent de donner des invitations aux premières de spectacles du cirque à des journalistes qui critiquent négativement les spectacles. Pendant longtemps, ça a un peu changé maintenant, mais pendant longtemps, il était mal vu de se moquer ou de critiquer Céline Dion, étant donné l'incroyable renommée mondiale qu'elle avait, alors que beaucoup de gens d'ici trouvaient que ce qu'elle faisait n'était pas toujours très bon. Ce sont des trucs qui m'énervent. On est comme des ados attardés des fois.
Ouais, moi je pense que t'as raison. Bah, tu faisais référence à Pierre-Carl Péladeau.
Pierre-Carl Péladeau,
qui est le grand patron de Québécois, qui est la plus grosse entreprise d'imprimerie au monde, et qui en plus est un peu diversifié à l'image de Vivendi en France, en rachetant des chaînes de télévision, une chaîne de télévision, la principale chaîne de télévision privée, ainsi que le Journal de Montréal, puis d'autres choses. Là, c'est un véritable empire. Et effectivement, il a un contrôle assez grand sur l'information, sur la circulation de l'information et ce que tu appelles un peu ces dérapages. Déjà, un premier point, c'est que, comme tu l'as dit, c'est nouveau. C'est depuis les années 60. Le Québec, alors déjà avec la Révolution tranquille, puis avec l'exposition universelle, c'est largement ouvert avec son environnement sur le monde. C'est ouvert sur déjà l'Amérique du Nord, le reste de l'Amérique du Nord, et principalement sur les États-Unis, qui est un pays très libéral, comme chacun le sait. Il y a comme eu une mise à niveau, si je reprends un terme informatique, là, il a fallu se mettre à niveau rapidement au niveau de l'économie. Et évidemment, il y a des dérapages parce que ça s'est fait peut-être trop vite.
Mais est-ce que ça serait comme en France? Parce qu'en France, l'argent est quand même assez tabou. Est-ce que le rapport que tu constates...
Non, c'est pas pareil qu'en France, parce qu'effectivement, les Québécois ont tellement mis de côté la religion et se sont tellement convertis au néolibéralisme.
Trop.
Ça, c'est ton opinion. sont trop. Pour Jimmy, se sont convertis au libéralisme. Ils ont assez rapidement pris une autre...
Une autre tangente.
Ont eu un rapport différent avec l'argent et se sont adaptés. Effectivement, le problème aussi, c'est que en France, si il y a Vivendi qui fait un peu trop de concentration dans les médias, il y a d'autres entreprises. C'est quand même 60 millions d'habitants en France. Il y a beaucoup de réseaux de médias et différents. Il y a plusieurs gros groupes qui se partage le gros gâteau de la masse média, alors qu'au Québec, c'est vite fait. Hein, qu'est-ce qu'il y a comme grand groupe de presse, à part le Journal de Montréal, il y a La Presse.
Le Devoir, bon, qui est indépendant.
Bon, au niveau impact sur la société, au niveau des médias, la masse média, Le Devoir ne représente pas grand-chose, malheureusement.
À peu près un tiers des journalistes au Québec sont engagés à contrat ou à temps plein, ou des salariés de Radio-Canada, qui est la société d'État, comme j'en parlais sur le forum hier. Donc, ça fait en effet pas mal de monde. La concentration.
Ça se fait rapidement, là.
Ouais. Ça peut avoir un impact négatif.
Effectivement,
sur
il peut y avoir des
démocratie
abus.
Même.
Ouais. Voilà. Alors, peut-être qu'il faudrait justement réglementer un peu plus ça. Peut-être.
Un autre point négatif, Jimmy. En est-il encore sur ta liste?
Il y a beaucoup trop d'Elvis Graton au Québec.
Ah, je veux dire, ok. Elvis Graton, là.
Faudrait définir qui est Elvis Graton.
Un peu en France, on dirait un beauf. Au Québec, on dit un colon.
Le roi des colonisés.
C'est ça. Moi je trouve pas, mais c'est vrai que je peux pas parler objectivement, ou je pense que j'ai pas encore assez de
recul. Tu les aimes, les Elvis Graton, toi, Jean-Philippe?
Je les trouve sympathiques, mais je trouve pas qu'ils soient aussi nombreux qu'on le prétend. Franchement, je me fais encore des amis, là. Je le sens.
Mais est-ce que c'est au niveau idéologique que tu vois l'Elvis Graton? Toi, je sais pas à quoi tu fais référence, au niveau vestimentaire et idéologique.
Des comportements?
Des colonisés qui admirent tout ce qui est américain, qui détestent tout ce qui est québécois.
Non, j'en ai pas vu beaucoup. Franchement, je connais beaucoup, beaucoup de Québécois, j'en rencontre beaucoup au travail. Et pourtant au travail, je peux te dire que ça peut être aussi des gens qui ont de tous les niveaux d'instruction possibles, donc autant des niveaux des gens du peuple, issus du peuple, que des gens, des étudiants qui ont quand même donc ça brasse à peu près un grand échantillon de population au Québec. J'ai pas vu ça. Je crois qu'il y a quand même une défiance vis-à-vis des États-Unis.
Mais c'est pas un peu contradictoire, parce que là, tout à l'heure, mon cher Jimmy, tu nous dis qu'Elvis Graton, il y en a pas mal, mais au début, là, un de tes premiers points, c'était, t'en rappelles-moi, tu nous disais le contraire.
Oups, je viens de me faire prendre.
Ah oui, hein, moi je trouve ça, parce que là, les Québécois se sont le plus opposés à la guerre, d'envoyer leurs troupes en Irak, et d'ailleurs, moi je le répète, s'il n'y avait pas eu les Québécois, on serait allé en Irak, les Canadiens, parce qu'il n'y aurait pas eu, il y a vraiment une
mal. On l'a vu au niveau des sondages, hein, c'est pour ça qu'il faut, faut bien prendre en
compte. Oui. Ça dit que les Canadiens anglais étaient divisés.
Les Albertains, eux, c'était clair.
Mais les Québécois étaient unanimes.
C'est ça.
À ne pas y aller.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'était assez équilibré.
Donc, l'addition des deux.
Oui, c'est vrai que c'était assez équilibré du côté anglais. Il y a une hésitation, on va dire. Hein.
Juste le divisé.
Voilà. Mais c'est vrai que je crois que c'était à 80 ou plus de 80% pour le Québec. C'était non, il n'y a pas question qu'on y aille. Hein.
Le Canada anglais, à peu près 55 ans.
C'est ça. Faut pas voir le Rest of Canada, le ROC, comme on l'appelle, comme une espèce de bloc monolithique. Non. Alors, on va continuer donc notre découverte musicale. Et là, je vais vous faire jouer du Plume la Traverse. Plume la Traverse, c'est pas évident de comprendre Plume la Traverse. Je vous dis tout de suite, c'est du joual. Et c'est un poète, c'est faut-il le dire, aussi un alcoolique, hein, finalement, un peu un monsieur très porté sur la boisson.
Je suis pas sûr que ce soit son seul vice.
Non, mais en tout cas, il est très, très, très particulier. Et on va écouter donc ensemble l'hiver. Et c'est pas l'hiver.
C'était son anniversaire hier, d'ailleurs, à Plume la Traverse.
Ah, d'accord, ok. Ah, ouais. Et c'est pas l'hiver comme vous le pensez, c'est le L-I-T-V-E-R-T. Alors, l'hiver de Plume la Traverse.
Pas chaud, même si l'hiver est beau, j'aurais bien goût de sacré mon temps jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai les pieds, pis c'est bon pour ça que je l'ai la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidou, j'ai pas de garage, la scotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir. J'ferme toutes mes fenêtres et j'peux même plus sortir. Oh, il est pas chaud. Même si l'hiver est beau, j'aurai même tout sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai des pieds. Pis c'est bon pour ça que je l'ai la tête dans le temps des fêtes. J'suis comme un ours dans le fond de sa cage. J'cultive la mousse sur mon visage.
tu y passerais, tu j'ai envie de partir. Si je me sens prêt à me faire endurcir, oh oui, ça va chaud. Même si l'hiver est beau, j'aurai bien tout sacré mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi. C'est pour ça que j'ai les pieds, c'est pour ça que j'ai les doigts. C'est bon pour se jeter la tête dans le temps des fêtes. Dans ce saint maudit beau voyage, l'hiver est moins sur une plage. Le grand soleil à 57 par jour, ça va à peine d'aller faire son petit tour. Oh, oui, ça va chaud. Même si l'hiver est beau, je ramène du sacré mon camp jusqu'au printemps.
Eh bien, nous sommes de retour donc sur Caribou Déchaîné, toujours avec les points noirs du Québec. On va continuer, Jimmy, avec... T'as encore d'autres choses à reprocher au Québec, Jimmy?
Le politically correct.
Ah, mon Dieu.
Un exemple du politically correct. On veut jamais de confrontation. On veut jamais de controverse au Québec. On veut pas de conflit. On recherche tout le temps le consensus. C'est plate, ça.
Voilà, moi, je crois que tu exagères. Tout le temps. Non. Effectivement, au Québec... on essaye d'éviter la plupart du temps les affrontements. Tu vois, déjà, il y a un petit changement là, la plupart du temps. Ici, on va chialer, on va se battre pour de vraies affaires, pour des choses qui ont vraiment de l'intérêt. C'est sûr que vous n'allez pas voir des personnes se battre parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une queue de poisson en voiture à un feu rouge. Là. Vous êtes à Paris, j'ai vu ça, des gens qui sortaient de voiture et qui en venaient aux mains uniquement à cause de ça. Au Québec, non. Par contre, pour des questions fondamentales, là, on va voir des gens monter au créneau. On va voir, par exemple, des gens dire que ça n'a pas d'allure, que Théodore n'arrête pas les rondelles devant le Chili. Non, j'exagère, je plaisante. Mais non, il y a quand même des matières à débat. Je parlerai pas forcément de l'indépendance, mais c'est quand même un débat assez profond. Le débat de la santé aussi lors des élections et encore aujourd'hui, c'est quand même un débat qui revient souvent. Que ça soit dans les journaux, à la télévision, on en parle quand même assez régulièrement. C'est sûr qu'au Québec, on va pas se réunir autour d'une table là, avec 5-6 micros et puis inviter 4-5 spécialistes qui vont refaire le monde et qui vont dire bah, « moi je suis pas d'accord, moi je suis pour tel système de santé, ouais, oui, vous êtes pour un système à deux vitesses ». Non, on va pas perdre son temps dans des discussions qui n'avancent à rien et qui débouchent sur rien. Voilà, c'est ça la différence au Québec.
Fâche-toi pas.
Alors moi j'ai encore deux messages là. Il y a encore Alex de Mons en Belgique qui est d'ailleurs alias Mystéral sur le forum. Alors donc il te répond, Jean-Philippe, écoute bien, pour te répondre cher Pépé, il existe même des navettes gratuites à Mons qui wow. permettent de laisser qui permettent de laisser sa voiture à l'extérieur dans des parkings de dissuasion. Oh, c'est beau comme expression.
C'est quoi ça, des parkings?
Des stationnements.
C'est
ce qu'on appelle stationnement au Québec.
Ah, excusez-moi.
De la ville pour travailler dans le centre de la journée. Cela existe-t-il au Québec? Des parkings de dissuasion? Mais à ma connaissance, en tout cas, si je peux répondre à ta place, ouais. Là, c'est le train. On encourage de plus en plus les gens en périphérie de Montréal, sur la banlieue nord et sud, d'utiliser le réseau de train, qui est pas du tout semblable au RER en France. Là, faut pas comparer ça. C'est très, différent.
Il y a des trains en début de journée et oui. puis en fin de journée. C'est uniquement aux heures de pointe.
Et les gens sont déposés en général vers la gare centrale, au centre de la ville. Et donc, il y a des stationnement dans ces points où ils peuvent laisser leur voiture en banlieue.
Il y en a pour l'autobus aussi, ça s'appelle des stationnements incitatifs.
Exactement, et près des principales stations de métro, moi je reste à côté de la station Henri Bourassa, par exemple, et il y a des stationnements aux alentours. Donc oui, il y a du stationnement incitatif. Est-ce qu'il y aurait des efforts à faire? Bah oui, comme toujours. Oui.
Et j'ai aussi un autre email de Nakaï sur le forum qu'on connaît depuis presque 2 ans maintenant, je crois, et qui a parrainé son Marocain, et qui nous dit « Salut la gang, j'ai malheureusement manqué le début. Avez-vous parlé du logement? Du logement accessible monétairement, j'entends. N'est-ce pas une lacune ici au Québec? Des condos, c'est bien, mais dans mon coin, c'est-à-dire Villeray, les condos poussent comme des champignons. Pour moi, c'est une grosse lacune à Montréal, en tout cas. Merci. C'est très intéressant de vous écouter. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est vrai que...
Okay, on en avait un peu parlé.
Le coût des logements a augmenté ces dernières années à Montréal.
Oui,
hein?
C'est ça.
C'est plus ce que c'était.
Et c'est... Bon, ça me donne la chance d'expliquer ce que j'ai mal expliqué l'autre jour au sujet de ça. C'est que les économistes vont mettre dans la colonne positive que les logements ont augmenté de 10 % à Boston et de 5 % à Montréal. Donc, ils vont dire c'est mieux à Boston. Et ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que je trouve pas ça mieux, moi.
C'est parce qu'ils prennent le bord du propriétaire et non du locataire.
Voilà.
Oui, ben, comme je disais aussi hier. D'abord, Edin, Montréal reste l'une des principales villes et même la métropole en Amérique du Nord la plus abordable au niveau des loyers, ça il faut pas l'oublier. Et que si effectivement il y a une augmentation, et puis effectivement c'est normal de s'en plaindre. Moi quand j'ai reçu mon augmentation là pour le mois de juillet, c'est sûr que j'étais pas content. Mais c'est un réajustement et que même avec ces augmentations, eh bien Montréal reste une ville très abordable pour les loyers. C'est vrai aussi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi Nakaï, c'est vrai que il y a beaucoup de condos, il y a beaucoup de logements
de luxe,
de luxe, de prestige. C'est ça qui se construisent, il y en a pas très loin d'ici d'ailleurs qui se construisent et il y en a de plus en plus qui poussent partout à Villeray mais au centre-ville au plateau sur le plateau et bon ben ça c'est aussi parce que on laisse il y a pas mal de liberté au niveau de la construction et c'est assez déréglementé
en fait, ce que voulait dire c'est peut-être que si le gouvernement investissait plus dans le logement les logements sociaux bon on parlait de notre gouvernement un peu plus à gauche en tout cas peut-être plus interventionniste qu'ailleurs en Amérique du Nord, ben, que fait-il à ce niveau-là? Et il y a aussi la crise du logement qui nous frappe depuis quelques années à Montréal. C'était pas le cas avant. On trouvait un appartement les doigts dans le nez à Montréal et maintenant c'est plus difficile.
Et ces condos qui poussent, c'est des baby boomers qui les achètent.
Ah, les méchants baby boomers.
Un jour,
là, je regarde dans la blague, hein,
un jour, les baby boomers comme moi vont disparaître et il va y avoir beaucoup de condos à vendre pas cher.
Ben oui.
Donc, les immigrants qui arrivent, qui sont la plupart dans la vingtaine, trentaine, ils arrivent au bon moment.
Ouais, ouais, ben, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Hein. Ce qui est là, ce qui est construit au niveau des condos, au niveau de même des maisons de haut standing, c'est quand même le mérite d'exister.
Mais des fois, je me pose des questions, parce qu'il y a plusieurs années, on s'est dit aussi, il y avait plein de besoins, on a construit, et dans les années 80, par exemple, il y avait vraiment beaucoup de logements vides, et ça a beaucoup dépéri, et les gens, vraiment, ils savaient plus quoi faire, et est-ce que dans quelques années, on se retrouvera pas avec le départ des baby boomers, en maison de retraite, ou ailleurs, devant dans leur maison de campagne sur le bord d'un lac?
Là, tu parles.
Est-ce qu'on se retrouvera pas avec plein de logements et perdre de son argent carrément pour ceux qui ont investi dans l'immobilier?
Peut-être que les personnes, que des immigrants prendront place dans ces logements.
C'est encore une fois pourquoi on a besoin des immigrants pour justement
combler
tous ces logements vides.
Je pense aussi que c'est un signe de bonne santé économique. C'est un signe de bonne santé économique qu'il y ait une crise de logement à Montréal et qu'il y ait autant de construction.
Quand la construction va, tout va.
Exactement.
Voilà. Alors, Jimmy, as-tu d'autres choses à reprocher à ton Québec que tu aimes quand même, faut le rappeler, mais quand même, hein, c'est pas parfait, c'est pas tout rose.
Sinon, c'est une paire de baffes. Hein.
Jean-Philippe, comment ça se fait que les Québécois, par deux fois, se sont dit non à eux-mêmes lors d'un référendum?
Oh non, ben ça...
Est-ce qu'on a vraiment le temps de parler de ça, là?
Si les Québécois avaient gardé plus de caractéristiques de leurs ancêtres gaulois, ça ferait longtemps qu'ils auraient leur pays à eux, non?
Oui. Oui, s'ils étaient restés un peu plus... pas autant que les Français, mais garder un peu... Ouais, c'est ça, un côté un peu gaulois. Oui, là, on serait en train de parler depuis Montréal, depuis Québec, pays indépendant. Sans doute, en tout cas. J'ose le croire. Bah pourquoi Oh là là, peut-être par frilosité, peut-être que... C'est comme dans une élection politique, enfin une élection conventionnelle, une élection provinciale. Il y a des gens qui sont convaincus d'un oui et les autres qui sont convaincus d'un non. Et puis il y a toujours cet électorat flottant qu'on appelle l'électorat.
Les nouis.
Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop. En fonction des discours de chacun, ils vont évoluer d'un côté ou d'un autre. Et puis là, en 95, il y a eu des interventions fédérales, beaucoup d'argent d'investi. Juste pour donner un exemple, dans la manifestation anglophone à Montréal, où tous les anglophones du Canada, et puis je me demande s'ils n'ont pas été en chercher ailleurs d'ailleurs, tous les anglophones se sont rassemblés à Montréal pour dire « Oui, le Québec, on vous aime, on vous aime ». juste le coût de cette manifestation, juste pour cette journée, a été supérieur à l'ensemble des sommes investies dans la campagne du oui. C'est-à-dire du camp du oui, ce qui est incroyable.
C'est vrai que le gouvernement fédéral investi a donné des billets gratuits carrément. Les gens pouvaient prendre l'avion pour aller à Montréal, au Square Dominion, je crois, pour se réunir et proclamer leur amour au Québec.
Ce qui montre un grand déséquilibre entre le camp du oui et le camp du non. Mais ça, c'était juste un exemple. On aurait pu en citer d'autres, mais c'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence. Il y a eu, on pourrait parler de magouille. Qui a fait influencer le résultat. J'en suis persuadé. Peut-être une frilosité du peuple québécois aussi, peut-être.
Oui, oh, petite erreur quand j'ai parlé de Nakaï. Je m'excuse. Elle me fait un petit rappel, un autre email que je viens de recevoir. Laurent, je n'ai pas parrainé mon chum, il est venu tout seul. Toutes mes excuses à Nakaï. J'ai tout confondu. Eh oui, c'est vrai, t'as raison. Tu me l'as déjà dit et j'ai oublié, là. C'est la panique. Alors, je pense, Jimmy, que t'en es à la fin de ta liste.
Oui,
t'as
mon dernier point.
Petit cadeau pour nous.
Jean-Philippe.
Oui, mon cher Jimmy.
Parle-moi de l'hostie de tabarnak de calice d'hiver.
Écoute quand même, là.
C'est quoi ce climat de débile? Voltaire n'avait-il pas raison de dire au roi de France de laisser tomber ses quelques arpents de neige en faveur de la Guadeloupe et Martinique?
J'aime beaucoup Voltaire, mais il n'a pas dit que des choses bonnes, malheureusement, dans sa vie. En particulier celle-là. Oui, je comprends. Je me mets quand même à la place. Je suis loin d'être inhumain. Je me mets quand même à la place des Québécois qui vivent ces hivers année après année et ça depuis leur naissance. Et je me mets à leur place et je me dis si j'étais frileux comme eux autres, je pense.
Toi, t'es une chaufferette ambulante.
Ah, mon Dieu, oui.
T'es comme une femme enceinte.
Excuse-moi, Laurence.
Non, mais les femmes enceintes ont très, très chaud, enfin.
C'est peut-être le caractère qui est chaud et qui influe sur le reste du
corps.
Non, mais sérieusement, c'est vrai que parfois, c'est pas facile. C'est vrai que par moins 25, avec un facteur vent qui nous conduit à des moins 40, et quand le vent souffle ici, croyez-moi, il souffle. Et je peux vous dire que même moi, il y a certains moments de l'hiver, j'en mène pas large. Mais,
quand le petit vent du nord se pointe le nez, là.
Ouais,
que
c'est
tu
pas
pleures,
facile.
Là, des yeux, là.
Quand je rejoins le métro après la sortie du travail, là, quand il fait bien un fret, là, comme on dit ici, avec un bon vent.
Quand il fait pas froid, quand il fait fret.
Fret.
C'est pas la même chose.
Mais généralement, quand même, ça, c'est quand même des petites exceptions dans l'hiver, hein, parce qu'il faut quand même que j'en dise. Mais sinon, le reste du temps, non, j'adore ça, j'adore l'hiver. Pourquoi l'hiver ici? Qu'est-ce qu'on peut faire contre? Pas grand-chose, à moins de continuer à se chauffer.
Mais Voltaire, malheureusement, il n'est pas venu à une époque par chez nous, où il y avait un souterrain, où il y avait le chauffage qu'on a aujourd'hui. Peut-être, est-ce que tu penses qu'il dirait d'autres choses aujourd'hui?
Oh! J'en sais rien!
Voltaire revisité.
Me mettre à la place de Voltaire, je sais pas ce qu'il dirait.
Parce c'est vrai qu'à 300 ans, moi, j'admire beaucoup les gens quand je me retrouve dans un champ de neige avec 15 cm de neige. Et je me dis, quand les premiers sont arrivés, c'était pas le confort et la commodité que nous, on a aujourd'hui en 2004. C'était vraiment des étendues de belle neige blanche, mais qu'il fallait traverser à la main en raquette.
Il y a un film qui m'a fait réaliser tout ce concept. C'est 15 février 1839,
37,
ouais. Excuse-moi.
La révolte des
l'excellent film, d'ailleurs, soit dit en passant, où il y avait des gens qui étaient en prison et ils se levaient le matin et puis ils allaient se faire un brin de toilette, donc il y avait un seau d'eau et puis pour faire la toilette, ils étaient obligés de briser la glace avant. Et là, ça m'a fait réaliser une chose. Wow, il y a une époque là, ça devait pas être drôle de vivre pendant ces 5 mois d'hiver, surtout que les hivers étaient encore plus froids qu'aujourd'hui et que il y avait pas le chauffage central, il y avait
pas de déneigeuse, pas de démarreur à distance, pas de siège chauffant dans la voiture.
Faut pas oublier aussi qu'à une époque, à chaque hiver, il y avait un tiers des habitants qui mouraient. Là, tout simplement, les premiers colons, hein, je parle.
C'est parce qu'ils manquaient de vitamines, ça. Parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il fallait manger l'écorce d'arbre, comme les Amérindiens, ou je sais pas trop quoi, pour se protéger du scorbut ou d'autres maladies.
On se plaint du froid aujourd'hui, mais je crois, Jimmy, que tout de même, tu devrais penser à tes ancêtres, qui avaient d'autres conditions de vie. Et que là, bah, c'est quand même, on est dans un grand confort, et puis on va pas se faire...
Que finalement, on est dans la ouest.
On va pas se laisser abattre par moins 30, là, non, mais franchement.
Est-ce qu'il t'a... Oui, tu voulais rajouter...
Tout à coup, je me sentais coupable.
Tu sentais coupable, c'est vrai
t'as
que...
T'as bien raison.
En regardant les... Hein, en mettant les choses en perspective, est-ce qu'il t'a convaincu, Jimmy, de mieux aimer le Québec, mieux défendre le Québec?
Il est pas pire, ben, franchement...
Il est pas pire? Il est convaincant?
Il est pas pire partout.
Merci, Jimmy. En tout cas, c'était un bon questionnaire. Je pense que tu as mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver autant de points noirs pour le Québec. Là. Peut-être que tu as eu de l'aide, non? Peut-être de,
Non.
Maudit français, là.
Non, même pas.
OK. En tout cas, j'ai bien aimé, en tout cas.
Ben, en tout cas, c'était la première édition du Caribou déchaîné sur Fréquence Caribou. Donc, ici Laurence Nadeau en direct de Montréal. Et j'ai eu l'aide aujourd'hui de Gilles alias Jimmy, qui nous a pointé les points noirs du Québec, et Capitaine Québec, alias Jean-Philippe. Ah non, si tu veux, on peut te rebaptiser Capitaine Québec sur ce forum, parce que je pense que Petit Prince, en tout cas... Alors, Petit Prince, qui est allé à la défense du Québec, l'immigrant français qui va à la défense du Québec. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. Il va y en avoir d'autres rendez-vous, sans oublier évidemment le rendez-vous de lundi prochain, 17 mai, mon Dieu, je me sens encore en hiver, 17 mai. Lundi, 14h, heure de Montréal, 20h, heure de Paris. Rendez-vous. Et puis, voilà, à la prochaine. Et il y en aura d'autres caribous déchaînés et d'autres débats. À la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.